RFI, 19h à Paris, il est 18h en temps universel.
RFI Soir, Nemo en piste.
L'heure d'un nouveau journal, c'est avec vous, Mayol de Charon. Bonsoir, Mayol.
Bonsoir, Nemo, et bonsoir à tous.
Ces recherches qui se poursuivent pour tenter de retrouver des disparus dans le sud-est de l'Espagne.
Il serait encore plusieurs dizaines, selon le gouvernement. Les inondations ont fait au moins 205 morts. La solidarité, elle, s'organise. Nous serons au stade de Valence dans un instant. Les négociations de la COP16 biodiversité dans leur dernière ligne droite en Colombie. Trois textes sont sur la table, mais un bras de fer nord-sud bloque les discussion. La poursuite des bombardements israéliens au Liban accroît le besoin d'aide humanitaire. L'ONU tire le signal d'alarme. Les dons ne sont pas assez nombreux. 426 millions de dollars sont nécessaires. Et puis il a créé l'exploit en battant le numéro 2 mondial Carlos Alcaraz au Masters 1000 de Paris-Bercy. Le français Hugo Humbert affronte l'Australien Jordan Thompson pour une place en demi. Nous serons à Bercy dans ce journal.
L'armée est donc mobilisée dans le sud-est de l'Espagne.
Pour aider à faire face aux conséquences dramatiques des inondations qui ont tué 205 personnes selon un dernier bilan. En tout, 1700 militaires sont déployés dans la région de Valence. Leur priorité, c'est de rouvrir les ports, les routes et d'aider à la recherche des disparus. Ils sont encore plusieurs dizaines selon le gouvernement. Et parallèlement, donc, la solidarité s'organise. On retrouve notre envoyée spéciale Pauline Glaise. Bonsoir Pauline.
Bonsoir.
Vous êtes donc au stade de Valence où la solidarité, je le disais, s'organise avec notamment un point de collecte pour aider les sinistrés.
Oui, la nuit est tombée maintenant sur le stade du Valence CF et le défilé de citoyens qui amènent des sacs ou des chariots de nourriture ou d'eau n'a pas cessé. L'espace devant les portes d'entrée du stade de Mestalla fourmille de volontaires. Mais la Banque alimentaire de Valence a mis en place toute une chaîne pour organiser les dons. Au point de collecte, des volontaires séparent en plusieurs catégories. Des cartons, des palettes se remplissent ensuite et sont emportés sporadiquement en camion ou avec des voitures et des remorques. Sporadiques également, des applaudissements peut-être dédiés à des footballeurs présents sur le point de collecte. La banque alimentaire est assistée, je le disais, par de nombreux volontaires venus spontanément. Mais ce n'est pas la seule forme de solidarité ici. De l'autre côté de la ville, un autre ballet s'est formé. D'autres citoyens reviennent de communes affectées par les inondations. Ils sont assez faciles à reconnaître, souvent balais et pelle à la main. Ils sont couverts de boue, la même boue qui macule le bas des ambulances ici. Alors qu'il faut le dire, dans le centre-ville, aucun dommage n'est à déplorer. Certains volontaires sont parfois venus ici au stade après avoir été portés de l'aide dans les villes affectées. Ils resteront toute la nuit s'il le faut, assure-t-il.
Merci Pauline Glaise en direct du stade de Valence.
C'est la dernière ligne droite à la COP16 biodiversité.
La présidence colombienne de la COP a mis sur la table trois textes sur les trois principaux enjeux des discussions entre les plus de 190 pays présents à Cali. Le premier sur le mécanisme d'évaluation des feuilles de route que fournissent les pays pour préserver la nature, mais aussi sur la mobilisation des financements et enfin sur le partage des bénéfices tirés des données génétiques numérisées des plantes et des animaux. Bonsoir Lucille Gimbert, vous vous trouvez sur place à Cali.
Oui, bonsoir.
Quelle lecture peut-on faire de ces textes ?
Eh bien, la présidence colombienne tente là de trouver un équilibre entre ces trois sujets sensibles pour sortir du bras de fer nord-sud qui a bloqué les négociations ces derniers jours. En matière de financement, le texte ne propose pas la création d'un nouveau fonds, contrairement à ce que réclamaient les pays africains et le Brésil, mais il lance un processus pour évaluer et décider à la prochaine COP dans 2 ans en Arménie si un nouveau fonds est pertinent ou pas. C'est une sorte de voie médiane.
Est-ce qu'il est pour ce qui est des données génétiques, des plantes et des animaux?
Eh bien là, la Colombie propose cette fois-ci de créer dès cette COP un fonds, le fonds Cali du nom de la ville où nous sommes, pour récolter et partager les bénéfices tirés des données génétiques numérisées de la biodiversité. Les secteurs qui utilisent le plus ces données, on pense aux entreprises pharmaceutiques, cosmétiques ou agroalimentaires, et qui en tirent le plus d'argent sont invités, c'est donc volontaire et pas obligatoire, à payer à hauteur de 0,1% de leurs bénéfices ou 1% de leurs ventes. Enfin, certains craignaient que le travail crucial sur les mécanismes d'évaluation des politiques que présentent les pays pour préserver la nature, bien que ce travail fasse les frais de la bataille sur les financements, ça ne semble pas être le cas, en tout cas dans cette proposition.
Alors ces textes restent une proposition, pas le texte final. Que va-t-il se passer maintenant ?
Eh bien, les chefs des délégations sont en ce moment réunis à porte close. Ça fait 2 heures déjà. Chaque pays a avant cela fait son analyse du texte. Les consultations vont continuer toute l'après-midi ici à Cali. On va voir comment réagissent les pays, surtout le Brésil et les pays africains, au premier rang desquels la RDC, qui voulait absolument un fonds dédié à la biodiversité, en plus de celui sur les données génétiques. Tout peut encore bouger avant la plénière, qui est prévue dans 5 heures, où les pays sont censés voter.
Merci Lucille Jeanbert en direct de Cali pour RFI.
RFI, 20h passées de 6 minutes à Beyrouth après une nuit de frappe aérienne sur la banlieue sud de la capitale libanaise. Le premier ministre libanais accuse Israël de refuser tout cessez-le-feu avec le Hezbollah.
Et l'aviation israélienne a mené la nuit dernière au moins 10 frappes qui ont provoqué de fortes explosions, détruit des immeubles, des bombardements dans la région de Baalbek dans l'est du Liban ont fait au moins 10 morts selon les autorités libanaises. La poursuite de ces bombardements accroît les besoins pour la population et l'ONU manque d'argent pour l'aide humanitaire. Les pays donateurs tardent à honorer leurs promesses et ce alors que la semaine dernière, Paris a accueilli une conférence de soutien au Liban et à sa population. Nicolas Falaise.
426 millions de dollars, c'est la somme que les Nations Unies ont demandé cette dernière semaine pour venir en aide au Liban plongé dans la guerre. Mais à ce jour, seul 17% de ce montant a été réuni selon le porte-parole d'OCHA, l'agence humanitaire de l'ONU. Italie, États-Unis, Suède, France, Royaume-Uni ou Allemagne sont les premiers à avoir débloqué des fonds, mais les quelques dizaines de millions de dollars obtenus sont très insuffisants alors que l'on observe une détérioration rapide de la situation humanitaire selon Jens Larke, le porte-parole d'OCHA. En s'exprimant ce vendredi à Genève, ce dernier a lancé un appel pressant aux pays donateurs présents la semaine dernière à Paris pour une conférence de soutien à la population libanaise qui a permis de rassembler 800 millions de dollars d'engagement. Il est urgent de transformer ces promesses de dons en argent comptant pour que l'ONU puisse réellement apporter de l'aide au Liban, a lancé Jens Larke, ajoutant « Nous ne pourrons pas le faire si l'argent ne nous parvient pas rapidement. »
Nicolas Falaise et l'ONU tirent également le signal d'alarme concernant la situation à Gaza. Elle est apocalyptique dans le nord. L'ensemble de ses habitants courent le risque imminent de mourir selon les responsables des grandes agences humanitaires des Nations Unies. Elles exigent que l'État d'Israël cesse son assaut contre Gaza et contre les humanitaires.
Mayol, Washington annonce une nouvelle aide militaire à l'Ukraine.
De 425 millions de dollars. L'Ukraine en difficulté sur le front Est et qui s'inquiète de la présence de soldats nord-coréens sur le sol russe. Il serait près de 10 000 selon les États-Unis. Aujourd'hui, la Corée du Nord a promis son soutien à la Russie jusqu'à la victoire en Ukraine.
Et puis Kamala Harris et Donald Trump poursuivent leur duel à distance pour la Maison-Blanche.
La candidate démocrate et le républicain ont tous les deux donné rendez-vous à leurs partisans à Milwaukee, la plus grande ville du Wisconsin. Kamala Harris doit recevoir le soutien sur scène de la célèbre rappeuse Cardi B, après celui de Jilou, de Beyoncé ou encore de Bruce Springsteen. La candidate démocrate qui va devoir faire avec les derniers chiffres de l'emploi, ils sont lourdement pénalisés par les grèves mais également les ouragans de ce mois d'octobre. 12 000 emplois seulement ont été créés ce mois-ci, le plus faible nombre depuis décembre 2020. Le chômage reste cependant stable à 4,1%.
Et de son côté, Donald Trump continue de déraper.
Avec cette nouvelle escalade verbale hier, à 4 jours du vote, l'ancien président a suggéré que son opposante Liz Cheney passe devant un peloton d'exécution. Aux États-Unis, la correspondance de David Thompson.
Donald Trump semblait avoir tout dit sur Liz Cheney. Ancienne numéro 3 des Républicains à la Chambre, elle est l'une des rares au sein de la droite américaine à avoir osé lui tenir tête après le 6 janvier au point de présider la commission d'enquête parlementaire sur son rôle dans l'assaut du Capitole. Donald Trump a depuis juré de détruire sa carrière. Il est parvenu à lui faire perdre son siège de représentante du Wyoming. Mais la fille de l'ancien vice-président de George W. Bush ne s'arrête pas là. Héritière d'une des dynasties les plus conservatrices des États-Unis, elle fait aujourd'hui campagne avec la candidate démocrate Kamala Harris. Alors Donald Trump franchit un nouveau cap, il attaque Liz Cheney sur son soutien à la guerre en Irak et suggère de la passer devant un peloton d'exécution.
C'est un faucon de guerre radical, mettons-lui une arme dans la main face à 9 fusils lui tirant dessus et voyons un peu comment elle se sentirait avec des armes braquées sur elle.
Voici comment les dictateurs détruisent les nations libres, ils menacent de mort ceux qui les critiquent, répond immédiatement Liz Cheney sur X. Nous ne pouvons pas, dit-elle, confier notre pays à un homme qui rêve d'être un tyran. David Thompson, Miami, RFI.
C'est une affaire embarrassante, pour la Commission européenne. Le parquet européen confirme s'être autosaisi d'une enquête sur des soupçons de corruption.
Elle vise un haut fonctionnaire estonien en poste à Bruxelles. Celui-ci aurait bénéficié des largesses du Qatar et plus particulièrement de la société Qatar Airways. L'homme était chargé de négocier un accord sur l'ouverture du ciel européen à la compagnie aérienne de l'Émirat. Léonard Vincent.
C'est le quotidien français Libération qui a révélé l'affaire mardi dernier. Selon son enquête, Henrik Hololei, l'ancien haut fonctionnaire en charge des transports au sein de la Commission européenne, aurait bénéficié de vols gratuits en classe affaires, de séjours en hôtels de luxe, de sorties, de restaurants et de sessions de shopping, parfois en famille, aux frais de l'Émirat du Qatar entre 2015 et 2021. Le problème est que ce haut fonctionnaire était alors en charge de négocier au nom de la Commission un accord dit de ciel ouvert en Europe pour Qatar Airways. Ce sont sur ces faits que le parquet européen a annoncé vendredi s'être auto-saisi, non sans préciser que les institutions européennes auraient théoriquement dû lui signaler sans délai tout comportement délictueux, ce qui n'a pas été le cas à ce jour. Pourtant, à l'appui de son enquête, Libération cite un rapport de l'Office antifraude de l'Union européenne, l'OLAF. Une enquête conclue l'été dernier par la recommandation d'un simple suivi disciplinaire pour Henrik Hololei, un suivi toujours en cours, selon une porte-parole de la Commission.
Léonard Vincent.
RFI 19h12 ici à Paris. La France, dans ce journal, est le secteur de la justice qui devra faire un effort moins important que prévu dans le cadre du budget 2025.
Son budget devait être raboté de 500 millions d'euros. Finalement, ce sera moitié moins, 250 millions. Un revirement dont se félicite le garde des Sceaux, Didier Migaud. Et c'est donc la fin d'un feuilleton. Victorien Villaume.
Tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà un peu le message que semble vouloir faire passer aujourd'hui Didier Migaud, lui qui, il y a 3 semaines, en direct à la radio, menaçait pourtant de démissionner.
Si on en reste à la lettre plafond, oui, je ne vois pas ce que je ferais encore au gouvernement.
À cette période, le garde des Sceaux, seul ministre étiqueté à gauche, veut faire pression sur le Premier ministre. Il juge alors insuffisant son budget face à une justice en crise à qui on avait promis plus de moyens et plus d'effectifs. Mais tout ça, c'est donc terminé. Ça ne sera pas 500 millions d'économies, mais seulement 250. De l'argent qui permettra d'honorer tous les engagements pris, veut croire le ministre, et une preuve que ce secteur reste une priorité du gouvernement. Pour faire preuve de bonne volonté vis-à-vis de Michel Barnier, Didier Migaud admet également que le ministère de la Justice, compte tenu du contexte budgétaire, doit prendre sa part d'économie.
Victorien Villaume.
Et puis du tennis pour refermer ce journal. Les quarts de finale du Masters Mills de Paris-Bercy se poursuivent.
Et après la victoire cet après-midi d'Alexander Zverev et Holger Rune, le Français Hugo Humbert va tenter dans quelques minutes de poursuivre sa belle aventure. Après avoir terrassé le numéro 2 mondial Carlos Alcaraz hier soir, le Messin va défier l'Australien Jordan Thompson. On retrouve tout de suite sur place Eric Mamrud, bonsoir.
Bonsoir Mayol, bonsoir tout le monde.
Alors sur le papier, l'Australien est un adversaire à la portée du Français.
Oui, puisque Jordan Thompson est moins bien classé qu'Hugo Humbert, le français 18e, alors que l'Australien de 30 ans est 28e. C'est le meilleur classement de sa carrière et il le doit à son tout premier tournoi remporté. C'était en février à Los Cabos au Mexique. Il a également disputé une finale à Atlanta cet été. Puis juste après, en septembre, il a égalé son meilleur résultat en Grand Chelem en atteignant les huitièmes de finale de l'US Open. Jordan Thompson, qui a déjà affronté à une reprise Hugo Humbert, c'était à Cincinnati cet été, et il avait battu le français 7-6 au troisième set. L'Australien qui cette semaine à Bercy a notamment battu le huitième joueur mondial, le Norvégien Casper Ruud. Il est donc en pleine forme. Hugo Humbert est averti, lui qui devra être retombé de son nuage d'hier pour espérer gagner ce soir, après avoir digéré la plus belle victoire de sa carrière, comme il l'a qualifié, après avoir épinglé Carlos Alcaraz et avec un niveau XXL. Attention donc à la décompression mentale et physique qui survient souvent après ce genre d'exploit. Le Messin qui va tenter de se hisser pour la toute première fois en demi-finale d'un Master 1000. Il pourra en tout cas évidemment compter sur le soutien du public qui sera entièrement acquis à sa cause et qui va faire une ovation à son poulain qui va rentrer dans quelques secondes sur le court, suivi de son adversaire, donc l'Australien Jordan Thompson.
Merci Eric Mamrut, en direct de Paris-Bercy. On retrouve tout de suite Nemo en piste.
Et l'actualité sportive se poursuit juste après ce journal. Ce sera avec Saliou Diouf. Merci Mayeul de Charon. Il est 19h15 ici à Paris.
RFI Soir.
RFI Soir qui se poursuit pour un quart d'heure encore à suivre. La une en Asie et les derniers détails sur la présence nord-coréenne en Russie dénoncée par les États-Unis, la Corée du Sud mais aussi l'Ukraine. Selon ces derniers, 10 000 soldats nord-coréens seraient déployés en Russie dans le but d'intervenir sur le front de la guerre en Ukraine. Nicolas Roca sera avec nous. Nous sommes à Haïti, en Haïti également pour le reportage international. De quel œil les habitants voient-ils l'élection américaine ? Réponse dans une petite dizaine de minutes. Mais avant cela, je vous le disais, le journal des sports. Bonsoir, salut Diouf.
Bonsoir Nemo.
On commence avec du football. C'est désormais officiel, Manchester United a un nouvel entraîneur.
Ruben Amorim prendra officiellement ses fonctions le lundi 11 novembre après avoir été débauché du Sporting Portugal, le club lisboète où il exerçait depuis 2020. Il succède au néerlandais Erik ten Hag, limogé lundi. Le Portugais arrive précédé d'une réputation de tacticien hors pair, ce qui suscite des espoirs élevés chez les supporters Babacar Diarra.
Rien n'a été improvisé dans cette transition entre le départ d'un Erik ten Hag en panne d'inspiration et de communication avec ses joueurs, puis 4 jours plus tard, l'officialisation du débauchage pour environ 10 millions d'euros de Ruben Amorim, l'un des techniciens les plus cotés du marché. C'est la première vraie empreinte posée par Ineos, propriétaire de Manchester United depuis bientôt un an. Le choix d'un coach adoubé par les fans du Sporting, retombé dans l'ivresse d'un titre après 19 années de disette au Portugal, ceux des Red Devils, sans titre domestique depuis 13 ans en Angleterre, ne rêve que de ça. Avec Amorim, ils accueillent un apôtre de la possession de balle et du football chatoyant, un entraîneur qui ne pourra toutefois pas recruter à sa guise à court terme. Le dernier mercato de son prédécesseur et son limogeage auront vidé les caisses de Manchester United. Ruben Amorim, ex-international portugais, devra donc appliquer ses idées de jeu avec un groupe plombé par des résultats moyens, une prise de risque audacieuse pour sa première expérience à l'étranger.
Et en attendant l'arrivée du nouvel entraîneur, c'est l'ancien attaquant du club, Ruud van Nistelrooy, qui sera sur le banc face à Chelsea ce dimanche.
Salut du football toujours, mais nous sommes en France, on parle Ligue 1 cette fois-ci.
Et Lille affronte Lyon pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, une rencontre entre le 4e et le 7e du championnat. Le LOSC, séduisant en Ligue des Champions après avoir battu le Real et l'Atlético de Madrid, est vainqueur du derby face à Lens samedi dernier et sur une bonne dynamique. Son entraîneur Bruno Genesio, né à Lyon et ancien entraîneur du club savoure, mais pour lui, il ne faut pas s'emballer, car le plus dur commence maintenant pour son équipe.
C'est une grande fierté, mais attendons la suite, parce que imaginons qu'on ne se qualifie pas, par exemple, en Champions League, on aurait l'air un peu idiot aujourd'hui de faire les fanfarons et pas se qualifier, ou si en fin de saison, ça ne se passe pas comme prévu. Donc évidemment que sur le coup, c'est valorisant. On avait des matchs très difficiles, on les a bien négociés, y compris le derby, donc on est fiers de ses prestations, on est fiers des résultats qu'on a fait, mais on se remet en question, le staff, les joueurs et moi-même, pour éviter justement de tomber un peu dans une monotonie et de se laisser aller.
L'OSC Olympique Lyonnais, coup d'envoi dans un peu moins d'une heure.
On vous parlait tennis dans le journal de Mayol de Charon. Salut, le Masters 1000 de Paris se poursuit.
Oui, avec l'affiche de la première demi-finale du Masters 1000 qui est connue. Elle opposera Holger Rune à Alexander Zverev. L'Allemand s'est débarrassé juste avant du Grec Stefanos Tsitsipas, 7-5, 6-4. Le numéro 3 mondial finaliste du dernier Roland-Garros, qui semble retrouver son meilleur niveau, n'avait plus remporté 3 matchs consécutifs depuis l'US Open début septembre. Alexander Zverev au micro d'Éric Mamrut.
En ce moment, je me sens bien. Je suis motivé pour retrouver mon meilleur niveau et m'améliorer. Je veux progresser, je travaille en ce sens. J'essaye différentes choses. Le tennis ne s'arrête jamais, vous savez. Vous devez continuer encore et toujours à trouver les solutions pour être meilleur. Surtout quand on voit comment jouent Yannick et Carlos à l'heure actuelle. Le tennis est devenu tellement technique et agressif que je dois m'améliorer si je veux accomplir les grands objectifs que j'ai encore.
Alexander Zverev qui atteint pour la troisième fois le dernier carré de Bercy. La dernière, c'était en 2021.
Et on attend peut-être donc la qualification d'Hugo Humbert. Le match commence dans quelques secondes, minutes.
Ouais, ça va débuter. Dans
ça va arriver. On passe des cours de tennis à la piscine. Léon Marchand fait encore parler de lui, fait encore des exploits.
Oui, le quadruple médaillé olympique a battu un record du monde vieux de 12 ans, celui du 200 mètres 4 nage en petit bassin de Ryan Locht. Le Toulousain a nagé en 1 minute 48 secondes 88 centièmes. Il achèvera sa tournée asiatique demain avec le 400 mètres 4 nages. Est-ce qu'il va encore faire des exploits ?
Rendez-vous demain. L'actualité sportive très complète présentée par Salieu Diouf ce soir. RFI Soir, ça continue. À la une en Asie ce vendredi, la chronique nous emmène entre la Corée du Nord et la Russie. D'après la Corée du Sud, l'Ukraine et les États-Unis, quelques 10 000 soldats nord-coréens se trouveraient sur le territoire russe, dont 8 000 déjà déployés à la frontière ukrainienne. Bonjour Nicolas Roca.
Bonjour.
Alors que Washington et Séoul demandent à Pyongyang de retirer ses troupes, la Corée du Nord se contente de nier et a même effectué un tir de missile. Hier, Nicolas, que sait-on précisément de la présence nord-coréenne en Russie ?
Eh bien, on sait ce que nous disent les renseignements de leurs ennemis. Il faut donc prendre toutes les informations avec précaution. Le Pentagone évoque 10 000 soldats. Les estimations ukrainiennes et sud-coréennes vont-elles jusqu'à 19 000 hommes qui pourraient éventuellement débarquer sur le sol russe, puis en Ukraine. Des chiffres qui restent limités par rapport à la taille de l'armée populaire de Corée. 1,5 million de soldats et 7 millions de réservistes.
Et Nicolas, cela comprend les personnes qui effectuent leur service militaire ?
Oui, car en théorie, en Corée du Nord, tout le monde doit passer par cette case. Environ 10 ans pour les hommes, 5 à 8 pour les femmes. Une force qui est souvent utilisée en cas de catastrophe naturelle, quand le régime a besoin d'accélérer la construction d'un bâtiment ou bien pendant la période de repiquage du riz. Concrètement, cela veut dire que tous les soldats ne sont pas préparés de la même manière au combat.
Et qui sont donc ces soldats présents en Russie ?
Alors, a priori, pas des conscrits de base. Les renseignements sud-coréens assurent qu'il s'agit de jeunes soldats piochés parmi les 200 000 hommes des forces spéciales nord-coréennes. Il s'agirait notamment des commandos du 11e corps d'armée parmi les mieux entraînés du pays. Des troupes qui ont été impliquées dans toutes les opérations d'ampleur de l'histoire du régime. Elles seraient encadrées par Kim Yong-bok, selon l'agence de presse japonaise Kyodo News. Un général 3 étoiles apparu à plusieurs reprises aux côtés de Kim Jong-un ces dernières années, notamment lors d'exercices à tir réel des forces spéciales, des hommes certainement mieux nourris aussi que le reste de la population, mais surtout mieux équipés selon un rapport de l'armée américaine. Ils disposeraient des meilleurs équipements, que ce soit pour les explosifs, les parachutes, les agents biochimiques ou encore les avions.
Mais Nicolas, on le sait, les conditions de vie en Corée du Nord sont difficiles. L'économie du pays est criblée par les sanctions internationales. Est-ce que ces soldats sont préparés aux conditions de combat dans une guerre moderne comme celle qui se déroule actuellement en Ukraine ?
Eh bien, on devrait avoir la réponse assez vite, selon ce qui risque de remonter du front. L'armée populaire de Corée a tout de même traversé un large effort de modernisation. On l'a encore vu avec un nouveau missile nord-coréen dévoilé ce jeudi. Les forces spéciales ne bénéficient toutefois pas des équipements modernes des Russes ou des Américains qui sont utilisés en Ukraine, ce qui peut expliquer leur présence dans des centres d'entraînement aux côtés des troupes du Kremlin. Ils vont donc devoir découvrir, par exemple, l'omniprésence des drones, tous les autres défis de la guerre moderne, un vrai test de grandeur nature. L'armée des Kim s'est battue au Vietnam, elle a envoyé quelques pilotes de chasse aux côtés de l'Égypte durant la guerre du Kippour, mais la seule vraie expérience de guerre de l'armée nord-coréenne, elle remonte à 1953 et c'était la guerre de Corée.
Voilà une en Asie, chronique signée ce vendredi, Nicolas Roca. Merci beaucoup Nicolas. RFI 19h23 ici à Paris, il est 14h23 à Port-au-Prince, l'élection présidentielle américaine vue de l'étranger. RFI vous propose chaque jour un tour du globe pour se pencher sur le vote du 5 novembre. Aujourd'hui donc des tours par Haïti où les habitants suivent la campagne avec une attention particulière. Dans la capitale, les avis sont partagés. D'un côté, l'espoir de voir Kamala Harris adopter une politique migratoire plus clémente. De l'autre, la crainte d'une réélection de Donald Trump perçue comme un danger pour les immigrants haïtiens. Ne souhaitant pas voir le milliardaire républicain réélu, des citoyens se mettent plutôt du côté de la démocrate, avec toutefois un scepticisme quant à la capacité du parti à réellement changer la situation en Haïti. Dans les rues de Port-au-Prince, des citoyens livrent leurs réflexions, leurs inquiétudes et leurs attentes de ces élections. Reportage avec Peterson Luxama, notre correspondant dans la capitale haïtienne.
Les échos de l'élection américaine résonnent jusqu'à Port-au-Prince. On en discute un peu partout, dans la rue, au travail. De nombreux Haïtiens placent leurs espoirs en Kamala Harris, la candidate démocrate. À l'image d'Abigail, elle est étudiante en psychologie à l'Université d'État d'Haïti.
Je suis inquiète à l'idée que Donald Trump puisse remporter les élections en raison de ses annonces sur l'expulsion massive de plusieurs milliers d'Haïtiens. S'il arrive vraiment à expulser tous ces Haïtiens en Haïti, où l'insécurité prend de l'ampleur, la situation deviendrait bien plus grave. Je préférerais que Kamala Harris gagne l'élection.
Au cœur des préoccupations, les menaces répétées de Donald Trump sur l'expulsion des Haïtiens vivant aux États-Unis. L'épisode de Springfield, en septembre, a marqué la campagne et les esprits. Le candidat républicain s'était fait menaçant, déclarant vouloir expulser les Haïtiens de cette localité de l'Ohio au motif qu'ils mangent leurs chiens et leurs chats. Des accusations totalement infondées, démenties par les autorités locales. Mais si le nom de Trump est perçu comme un repoussoir, celui de Kamala Harris ne fait pas pour autant l'unanimité. Polémon vit à Pétionville. Toute sa famille est installée aux États-Unis depuis 5 ans. S'il penche pour la candidate démocrate, il reste malgré tout sceptique.
Moi, ma femme et mes enfants sont aux États-Unis. J'aimerais que ce soit Kamala Harris, mais j'ai quelques doutes à son sujet. Pour moi, d'un côté, la campagne de Kamala est biaisée parce qu'elle prône l'homosexualité, l'équité de genre et l'avortement, ce qui, à mon avis, n'est pas moral.
Cette mosaïque d'opinion, d'autres Haïtiens ont une toute autre lecture de la situation. Sans illusion, ils sont convaincus qu'aucun des deux candidats ne changera la donne pour Haïti. C'est le cas de Philogène, un trentenaire croisé à Pétionville.
Aucun de ces deux candidats n'apportera une solution durable pour Haïti. Donald Trump est raciste et il a déjà déclaré qu'il procéderait à une grande déportation des migrants haïtiens. Quant à Kamala Harris, on ne peut pas en attendre grand-chose, car ce sont déjà les démocrates qui sont au pouvoir. Et regardez comment ils traitent Haïti. Les Américains ne feront rien pour nous. En fait, ils sont pour beaucoup dans nos conditions de vie exécrables.
Qu'il s'agisse de Donald Trump ou de Kamala Harris, les grands discours de campagne n'apportent aucune réponse concrète à la crise que traverse Haïti. La proximité géographique entre les deux pays n'y change rien. Aucun des deux candidats n'a proposé de plan pour la sécurité ou la stabilité d'Haïti. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
RFI Soir se poursuit, 19h27. Ici à Paris, dans deux petites minutes, la première édition d'Afrique Soir. On finit cette demi-heure en musique, direction la République démocratique du Congo avec l'artiste Tchégué. Sur le titre Click, c'est à partir d'aujourd'hui en playlist RFI. Clic, c'est signé Tchégué et vous retrouvez le titre dès maintenant dans la playlist RFI dans un peu moins d'une minute, la première édition d'Afrique Soir.
Ce samedi sur RFI, le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, Bruno Faure.
Il parcourt le monde pour vendre son pays, la Guinée, et ses atouts majeurs comme le gigantesque gisement de fer Simandou. Ismaël Nabé, ministre du Plan et de la Coopération, détaille les projets de la transition. Son credo, n'exclure aucun partenaire.
Éco d'ici, éco d'ailleurs.
Avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Together Productions et RFI Talent présentent BIM en concert. À l'occasion de la sortie de son nouvel album intitulé Positive Vodoun, retrouvez le Bénin International Music Hall au studio 104 de Radio France à Paris le 5 novembre à partir de 20h dans le cadre de l'émission Couleur du Monde. Plus d'infos sur maisondelaradioetdelamusique.fr/événements/couleurdumonde.